Et bienvenue encore aujourd'hui pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'espérance au regard du texte de la Bible. Et nous sommes toujours accompagnés par Philippe Délay. Bonjour.
Bonjour Gaël.
Nous avons commencé à aborder, lors de notre dernière émission, dans la thématique des prophéties, celle des 2300 soirs et matins qui aboutit, d'après les calculs que nous avons faits dans notre dernière émission, en 1844. Cette prophétie annonce, d'après le texte, que le sanctuaire sera purifié. Vous nous aviez dit qu'au début du 19e siècle, plusieurs étudiants de la prophétie ont cru que le sanctuaire était notre planète, la Terre, et vous nous aviez également dit qu'en plus des événements historiques annoncés et qui correspondaient à la prophétie, des signes dans la nature devaient se produire et viendraient consolider cette prophétie. Pouvez-vous nous rappeler les textes qui l'annoncent ?
Eh bien oui, si vous voulez, Sir Gaël, je vous invite tout d'abord dans l'Ancien Testament et d'écouter ce que le prophète Joël nous a annoncé dans son chapitre 2, verset 30. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Et de même, dans le Nouveau Testament, plusieurs signes annoncés dans le livre de l'Apocalypse attestaient ceux du prophète Joël. Lisons au chapitre 6, le verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. »
Et tous ces signes se sont vraiment réalisés ?
Alors je vous invite à écouter ces rapports journalistiques de l'époque. Le samedi 1er novembre 1755, Lisbonne, qui est une ville de 235 000 habitants, est frappée par trois secousses telluriques d'une exceptionnelle violence, puis plusieurs raz-de-marée. La très belle capitale du Portugal, qui doit sa prospérité à un immense empire colonial, est presque entièrement détruite par le séisme et par l'incendie qui lui fait suite. 60 000 victimes restent sous les décombres. Beaucoup d'entre elles meurent dans l'effondrement des églises où elles assistaient à l'office de la Toussaint. Le tremblement de terre est ressenti dans toute l'Europe, entraînant des oscillations jusque dans les lacs écossais et les lacs suisses. Il s'agit là d'un très grand tremblement de terre qui atteste le premier signe du texte Apocalypse.
Alors évidemment, un cataclysme de cette envergure a dû frapper les esprits à l'époque.
Eh oui, et une tragédie de cette ampleur ne peut pas nous laisser insensibles. Mais ce n'est pas fini. 25 ans plus tard, un autre signe important, celui du soleil, qui devient comme un sac de crin. Et je vais vous résumer ce qu'un correspondant de presse écrit dans la Gazette de Joliette, datée du 20 octobre 1882. À la une, Pierre Vaillant raconte une histoire incroyable. Les ténèbres furent-elles, dit un autre historien, que l'on fut obligé d'allumer les chandelles à 3 heures de l'après-midi. Ce fut un vendredi, le 19 mai de l'année 1780, qu'il y eut la grande noirceur. Le matin du 19 mai, les ténèbres furent les plus épaisses et dans plusieurs places, il y eut de faibles orages de pluie accompagnés de gros coups de tonnerre et d'éclairs. Au soleil levant, les nuages, au lieu de se dissiper, allèrent s'épaississant de plus en plus. Les oiseaux entonnaient leur chant du soir et s'envolaient vers leur nid dans les bois, tandis que les poules retournaient en toute hâte sur leur perchoir. Les bêtes à cornes revenaient des champs en poussant des mugissements lugubres et sautaient les clôtures pour entrer dans leur parc de nuit. On pouvait voir les lumières dans les maisons et la lueur de flambeaux et des lanternes que les personnes portaient au dehors étaient curieusement reflétées dans les nuages. Des milliers de personnes crurent que c'était la fin du monde. Plusieurs abandonnaient leurs ouvrages et se mettaient à genoux pour prier. D'autres avouaient le tort et les dommages qu'ils avaient causés à leurs semblables et s'empressaient de faire restitution. Les églises des villes et des villages se remplirent d'une foule consternée qui poussait des lamentations et des gémissements. Les ténèbres s'étendirent sur toute la partie nord du continent américain et à l'ouest jusqu'à Albany. Mais on n'a jamais pu s'assurer des limites exactes de leur étendue. À Boston, leur durée fut de 14 à 15 heures, tandis qu'en d'autres lieux, elle varia d'une manière assez remarquable. Enfin, le matin du 20, le soleil apparut dans toute sa splendeur. Ce récit est confirmé dans le dictionnaire Webster, l'édition de 1883, sous la dénomination « Le jour obscur, 19 mai 1780 ». Alors, à part quelques hypothèses, ce phénomène n'a toujours pas été expliqué aujourd'hui.
rapport à l'échelle prophétique, deux signes de cette importance en si peu de temps, ça a dû susciter des interrogations.
Et oui, et en plus, il y a eu un troisième signe qui, 53 ans plus tard, encourage les étudiants à prendre la prophétie au sérieux, ainsi que la date de 1844. Écoutez ce que nous dit le site astronomique. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1833, des dizaines de milliers de météores sillonnèrent le ciel, là encore sous les yeux ébahis de la population. Chacun réveilla son voisin pour qu'il puisse voir ce spectacle, mais la plupart des gens se réveillèrent spontanément en sursaut, éblouis par les bolides les plus lumineux, dont la lueur inquiétante éclairait leur chambre plongée dans l'obscurité. Un planteur de Caroline du Sud fut réveillé par les pleurs désespérés des esclaves de sa plantation. Il se précipita à l'extérieur, ébahi par le spectacle céleste tout autant que par la multitude de ceux qui, prostrés, la tête tournée vers le sol, imploraient Dieu de les sauver et d'épargner le monde. Selon les observateurs, les étoiles tourbillonnaient en plus grand nombre que les flocons de neige. À Boston, on évalua le nombre d'étoiles filantes à environ la moitié des flocons de neige qui tombent lors d'une tourmente. Un compte rendu un peu moins poétique mais plus précis parle d'une pluie de 240 000 météores qui dura 9 interminables heures, c'est-à-dire toute la nuit. À New York, on estime qu'il en est tombé 10 000 par heure, certains météores étant aussi lumineux que la pleine lune. L'historien Richard Miller d'Evans classe la tempête météorique de 1833 parmi les 100 événements les plus importants de toute l'histoire des États-Unis. Alors Gaël, suite à ces événements, je désire vous lire ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 25, que nous avons lu dans notre dernière émission. « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.
Avec la conjonction de ces trois événements et toutes les choses qu'on a dites auparavant, et en plus des paroles prophétiques, comment ne pas croire à cette époque que ce ne soit pas le retour de Jésus ?
Alors nous aurons l'occasion de comprendre pourquoi il n'est pas revenu en 1844.
Eh bien, je vous invite à découvrir tout cela dans une prochaine émission, Philippe.
Merci Gaël, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.